Salut à tous, nous sommes là avec vous, Israël et Liora Gabay. On se retrouve cette semaine sur la chaîne de Radio Judaïka pour passer ensemble Shabbat chez les Gabay. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bienvenue à vous. Prenons donc maintenant place autour de la table afin de savourer ces mets spirituels. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver cette semaine encore pour une nouvelle émission. Et aujourd'hui, on voulait un peu parler des progrès qu'on fait dans la vie, des progrès et surtout du chemin qui va nous mener à ce progrès. Parce que parfois, on se sent bloqué dans notre volonté de progresser. Et c'est vrai qu'on a souvent des petits défis à relever. Bon, ça, on en avait déjà parlé pas mal. Et notre question aujourd'hui, c'est quand on reçoit ce petit défi justement à relever, où est-ce qu'on se sent bloqué dans notre vie? C'est quand même étrange que justement, au moment où on avait décidé de progresser, de repartir, de prendre de bonnes résolutions, on est tout d'un coup bloqué par des éléments qui ne dépendent pas de notre volonté. Et on se dit, mais comment ça se passe? Comment ça se passe? C'est Dieu qui nous envoie ces choses-là? C'est Dieu qui ne veut pas qu'on progresse? Alors quoi, Dieu n'espère pas, ne compte pas sur nous pour arriver à un meilleur idéal, à progresser et à arriver à un objectif encore plus haut que l'on avait auparavant? Alors, c'est intéressant de se poser ces questions parce que imaginez-vous que demain, vous décidez de manger strictement cachère. Et vous savez, la semaine prochaine, vous allez prendre l'avion. Donc, pendant une semaine, ça se passe bien. Mais pour l'avion, vous vous dites, je vais commander mon repas cachère. Et vous arrivez à l'embarquement. Et là, on vous dit, ah, non, monsieur, on est désolé, il n'y a pas de repas cachère. Vous dites, c'est bizarre, monsieur, écoutez, tous les passagers reçoivent leur repas cachère. Mais vous, ce n'est pas pris en compte. On n'a pas de repas cachère pour vous. Et là, vous vous dites, mais en fait, c'est vraiment indépendant de ma volonté. Moi, je n'y suis pour rien. J'ai réservé comme il faut. Et pourtant, on dirait que de là-haut, il y a quelque chose qui me dit « Non, en fait, tu as décidé de manger cachère, mais ce n'était pas encore le temps pour toi. » Alors, on se sent comme à un arrêt de notre vie et on se dit « Mais c'est figé. Il ne fallait pas qu'on prenne ces bonnes résolutions. Comment ces petits arrêts que l'on fait parfois dans notre progression peuvent être positifs ?» C'est ce qu'on va voir dans la paracha de la semaine.
Exactement. Dans la paracha, on parle d'un sujet, la paracha de Pécoudé, qui est la dernière paracha du deuxième livre du Sefer Shemot, où on parle que Moshe, bien sûr, on est en train de terminer la construction du tabernacle. Moshe va dénombrer, va déchiffrer tout ce qu'ils ont utilisé, toutes les matières qu'ils ont utilisées, donc il va donner le nombre, etc., etc. Et à la fin de la paracha, on voit le dernier passouk, très intéressant, il y a écrit qu'il y avait une colonne de nuée qui couvrait le tabernacle durant le jour et un feu qui brillait la nuit devant tout le monde, devant toute la maison, devant tout le peuple juif, et que ça les accompagnait dans tout leur voyage. Les Ene Kol Bet Israël, aux yeux de tout Israël, Bechol Maseyem, dans tout leur voyage. C'est comme ça qu'on conclut, on termine le deuxième livre. Mais attends, une question, parce que cette colonne de nuée, elle est là quand il y avait le tabernacle. En vrai, cette colonne de nuée, elle nous accompagnait. Imaginez-vous, on devait aller en voyage, donc elle devait nous diriger où on devait aller. Donc elle avançait devant nous et nous, on la suivait. Et quand après le tabernacle, on s'arrêtait, elle s'arrêtait. Et quand elle s'arrêtait, à ce moment-là, on construisait le tabernacle et on mettait tout en place pour pouvoir camper dans cet endroit. Mais la question se pose, comment, pourquoi la Torah, elle dit que cette colonne de nuée qui couvrait le Mishkan, elle était là dans tous nos voyages. Parce que finalement, dans le voyage, si elle dit qu'elle était sur le tabernacle, elle était là pour accompagner le tabernacle. Dans les voyages, il n'y avait pas le tabernacle. Alors Rashi, il explique que c'est quoi les Ene Kol Bet Israël aux yeux de tout Israël dans tout leur voyage, c'est-à-dire dans chaque voyage qu'ils étaient en train de voyager, eh ben, il y avait cette colonne de nuées qui les accompagnait et leur disait. Et on dit que même dans les moments où ils campaient en vrai, c'était aussi considéré un voyage. Et oui, même quand on s'arrêtait, eh ben, ce moment-là était considéré un voyage. Parce que c'est quoi un voyage? Comme on voit dans la Torah, quand on conclut le quatrième livre, « Elé Massé Béni Israël, voici les voyages, le voyage des Béni Israël, à Shiryatsou Meretz Mitzrayim, qui sont sortis de la terre d'Égypte. » Donc voici les voyages au pluriel. Mais on dit qu'il y a, pour sortir d'Égypte, ils avaient besoin que d'un voyage. Et on explique que non. Qu'en vrai, quand on te dit un voyage, c'est quoi? C'était pour sortir d'Égypte, pour sortir de la catégorie dans l'esprit où les Égyptiens, ils ont voulu les mettre d'une manière limitée, de les rentrer dans un univers, eh ben, il faut plusieurs étapes pour sortir. Des fois, il y a des gens qui vont dire bah, « je suis bien, je suis sorti de prison, je suis sorti d'un problème, etc. Maintenant, je suis bien, je peux manger, je peux dormir, etc. » Non, on te dit « non, il faut toujours voyager, toujours évoluer, toujours avancer. » On vient dans ce monde quelque part, dans un monde où il y a des difficultés, où il y a des moments de défis, et il faut savoir les surmonter, et il faut savoir voyager. Donc même dans les moments que le peuple juif s'est arrêté, a campé, c'était aussi considéré un voyage. Parce que c'était un moment, au contraire, pour aller, pour voir où on allait aller plus loin.
Et en fait, c'est intéressant cette notion de voyage, parce qu'on a tous un long voyage personnel à faire dans notre vie. Et on a tous sur le même schéma des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte pour se diriger vers la terre d'Israël. On a tous ce voyage à faire dans notre vie de sortir d'Égypte et d'aller vers la terre d'Israël. Alors à quoi ça fait référence ? Eh ben, comme tu as si bien dit tout à l'heure, que la Torah appelle le voyage, tous les voyages qu'ils ont fait, tous ces voyages-là dans le désert, ça s'appelle quand même la sortie d'Égypte. Alors, la sortie d'Égypte, c'est juste le premier voyage, hein, comme tu l'as dit. Alors, en vérité, l'Égypte, c'est en hébreu, l'Égypte, ça se dit Mitzrayim, qui en hébreu forme les mêmes lettres que le mot Meitzarim, Meitzarim qui sont des limites. Et en fait, c'est dans un sens plus profond, la sortie d'Égypte, c'est sortir de ses limites intérieures qui nous emprisonnent et qui nous empêchent d'avancer. Quand on dit à quelqu'un « tu es sorti d'Égypte », c'est pas l'Égypte une parcelle de terre sur le globe, mais c'est cette Égypte intérieure qui nous emprisonne et qu'on a tous en soi un petit Égypte intérieur, une petite zone de confort dans laquelle il faut sortir. Et c'est cela qu'on se souhaite avant Pessah, la bonne sortie d'Égypte, qu'on se souhaite de tous sortir d'Égypte. On est déjà sorti d'Égypte il y a de cela 3000 ans, mais on ressort d'Égypte chaque jour. Et chaque jour, on sort d'Égypte pour se dépasser encore plus. On ne veut pas être emprisonné par nos limites et le cadre qu'on avait posé. Et même les limites qu'on a dépassées la veille et le cadre qu'on avait reposé la veille. Aujourd'hui, il faut de nouveau sortir d'Égypte et de nouveau sortir de ce cadre, se dépasser de ses limites. Alors je sais que des fois dans la vie, ça peut être un peu compliqué parce qu'on se dit « Ah là, j'ai découvert un nouveau truc, je suis sortie de ma zone de confort. » Mais pourtant, il y a quand même quelque chose que je dois défier. C'est pour moi un challenge et pourtant, je suis prêt à me surpasser, à sortir de cette zone de confort, même si ça va être difficile pour moi. Je sors d'Égypte aujourd'hui. Je me dépasse aujourd'hui, je sors de mes limites intérieures qui m'emprisonnent et qui m'empêchent de dévoiler vraiment mon objectif ultime. Et une fois cet objectif ultime atteint, et on se fixe un nouvel objectif. Et cet nouvel objectif, on l'attend. Et c'est comme ça que dans la vie, on progresse, on progresse, on progresse. Parce qu'il n'y a jamais de finalité. Parce que le seul but qu'on n'a envie de se fixer, c'est de toujours être dans l'évolution et de progresser. Mais malheureusement, dans ce long voyage, il y a parfois des arrêts. On a envie de faire cette progression. On est tous conscients qu'il faut cette progression pour avancer. Dans ce voyage, il y a des arrêts. Alors, un arrêt, comme les Béni Israël dans le désert, ils s'arrêtent, c'était pour prendre des forces, reprendre des provisions et repartir. Et nous aussi, quand on a un arrêt dans notre vie, on doit prendre de la force et repartir de plus belle. Mais parfois, Dieu a décidé qu'il fallait qu'on s'arrête. Comme si il n'y avait pas d'issue possible et qu'il fallait juste qu'on prenne un temps de stop. Mais non, mais moi j'avais décidé que j'allais progresser, que j'allais être déterminée, etc. Oui, mais si on change un petit peu notre regard sur la vie, sur notre vision de voir la chose, c'est très différent de comment est-ce qu'on peut voir différents aspects de cette chose-là. Quand on est sur un arrêt...
Comme les Béné Israël. Ils étaient. Se sont arrêtés.
Voilà. Eh bien, parfois, on peut atteindre le niveau supérieur seulement si auparavant on fait un arrêt. Ça me fait penser à la Neshama. On dit que la Neshama, elle était bien auprès de Dieu, près du trône céleste. Et Dieu, il lui demande, voilà, s'il te plaît, est-ce que tu peux descendre sur terre? Tu as une mission à faire. Et elle veut pas, elle est bien près de Dieu, elle est super. Elle ne veut pas redescendre dans un monde impur, dans un monde corrompu de mensonges où le bien et le mal sont mélangés. Et Dieu lui dit, oui, mais quand tu vas revenir, tu seras encore plus haute et tu pourras être encore plus près de moi. Et c'est un petit peu cette notion qui est là, que quand on descend, c'est pour remonter plus haut. C'est quand on s'arrête, c'est pour atteindre par la suite une place bien plus élevée et repartir de plus belle et avec plus de force. Et c'est dans ces moments-là où on s'arrête qu'on peut découvrir des nouvelles capacités que tu ignorais.
אומרים שהשירים הכי יפים נכתבים בשעות הקטנות של הלילה כשהלב כזה חסר מעצורים ועוד כוכב נופל מלמעלה אומרים שאפשר לראות את מה שקורה מאחורי הקירות אולי זה רק עניין של אמונה בסוף רק תבקש לא להפסיק לאהוב יש אנשים שמחפשים סיבות לגעת בתוך האפל אולי למצוא תשובות למרות שלפעמים זה טוב לדעת קח את האור אליך אפילו כשקשה לך לזכור על מה כולם מדברים ומתי השמש תחזור שהתפילות הכי פשוטות לרגע עומדות בין הצל והפחד שבתוך כל לב ראינו דמעות ועוד מנגינה שניצחנו ביחד אומרים שאפשר לראות את מה שתמיד רצינו להיות אולי זה רק עניין של אמונה בטוב אנשים שמחפשים סיבות לגעת בתוך הערפל אולי למצוא תשובות למרות שלפעמים זה טוב לדעת קח את האור אליך אפילו כשקשה לך לזכור על מה כולם מדברים ומתי השמש תחזור
Mais quelle magnifique chanson, ouais, j'adore cette chanson qui dit Gam ba'ar, ulai ba'arafel timtsa tshuvot. Peut-être dans le noir, dans l'obscurité, c'est là que tu vas trouver les réponses. Eh bien oui, parce que c'est souvent au fond de l'assiette qu'on a les meilleures choses. D'ailleurs, ça me fait penser à une histoire d'un homme, malheureusement, qui sortait de prison. Et il s'est arrêté dans une auberge pour un bol de soupe chaude. Et il est dans d'autres mondes, il a terriblement souffert. Il remue un petit peu sa cuillère à la superficie de l'assiette. Et là, il y avait un majordome dans la maison. C'était un homme un petit peu simple d'esprit qui se dit « Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là ? » Peut-être il cherche les champignons, les bons légumes qui sont au fond de la soupe. Et il s'approche de lui et il lui dit « Ben, tu sais, si tu veux les champignons, il faut aller les chercher au fond de la soupe parce que au-dessus, il n'y a rien, c'est pas très bon. Mais en dessous, c'est là qu'est le meilleur. » Ben, c'est un peu pareil pour nous dans la vie parce que finalement, si on reste toujours sur le dessus et on se contente de ce qu'on a tous les jours, c'est super, hein, on peut être content, la soupe, elle est très bonne. Mais si on veut vraiment les kiffs de pouvoir apprécier, d'avoir des belles choses, d'avoir les réponses à nos questions, c'est en général dans l'obscurité. Et c'est justement là qu'on peut découvrir ces nouvelles capacités sur des choses qu'on ignorait.
Exactement. En vrai, on veut parler de un homme, comme tu le disais si bien. Il a des capacités dans toutes les situations d'avancer. Ça veut dire que même de l'échec ou de n'importe quelle situation ou de maman qui est bloquée, comme tu disais au début de l'émission, il doit avancer. Souvent, il y a des situations où ça arrive à nous tous. On a prévu une journée de dingue, il y a une tonne de choses à faire, et voilà, les coups de fil, on appelle un tel, ça marche pas, etc. Et là, on se dit, bah mince, je peux plus bouger. Bah non. Ça, quelqu'un qui peut pas bouger, qui se bloque, il a juste des missions à faire et il fait ses missions, ça va être l'ange. Ça va être les animaux. Mais l'homme, il est en capacité, en vrai, toujours d'avancer. Donc, il peut avoir des hauts et des bas, mais lui, il est toujours un mais à l'air. Il va toujours avancer. Alors que les anges, on les appelle omnibles, les personnes qui ne bougent pas. Pourquoi ? Parce que, alors que les anges, finalement, ils peuvent avoir des capacités de se déplacer au bout du monde. Oui, c'est vrai. Mais en vrai, l'ange, il va être toujours dans un niveau et il va stagner dans ce niveau. Il ne va pas pouvoir aller plus haut. Alors que l'homme, lui, il a la capacité de se rapprocher, d'avancer, de monter, d'augmenter de niveau. Et ça, c'est la force de l'homme. On raconte une histoire sur un Anglais, un patriote anglais, il avait un défi, je ne sais pas ce que c'était, la montagne Annapurna. Il avait un défi de monter cette montagne et toutes les personnes qui voulaient atteindre le summum de cette montagne, ils n'arrivaient jamais au bout de la montagne. Au sommet de la montagne, ils n'arrivaient jamais au bout de la montagne. Mais lui, il a réussi à atteindre un niveau que toutes les autres personnes n'avait pas réussi à atteindre et il a planté le drapeau de l'Angleterre. C'était une grande fête, une grande victoire parce que toutes les personnes d'avant, ils étaient montés jusqu'à un certain niveau, mais ils n'ont pas réussi, ils mouraient. Donc, ils avaient atteint l'échec, mais lui, il avait réussi, il avait planté le drapeau et il est redescendu. Et là, l'Angleterre a décidé de faire un grand événement pour lui. Pour le recevoir avec toutes les grandes personnalités, quelque part, il a fait un nom. Il a relevé le nom de l'Angleterre à ce niveau-là. C'était vraiment un honneur. Et voilà que lui, il arrive à cette réunion et que tout le monde attend qu'il va parler au public, qu'il va raconter son expérience. Et lui, il commence à parler à la montagne derrière. Une grande photo qu'ils avaient mise de cette montagne. Il commence à parler et il dit « Regarde, toi, tu n'as pas réussi. J'ai pas réussi à te vaincre. J'ai pas réussi à arriver jusqu'au bout, jusqu'au sommet de toi, de la montagne. Mais il dit, regarde, toi, la montagne, tu vas plus bouger, tu vas plus grandir. Moi, je vais revenir et je vais te gagner et je vais arriver au sommet. Et c'est ça qu'il a dit et c'est comme ça que ça s'est réalisé 2 ans plus tard. Il l'a fait et il a réussi à planter le drapeau de l'Angleterre. C'est quoi cette histoire? Ça vient nous montrer en vrai que quoi? Que cette personne-là, quand est-ce qu'il a pris toutes les forces et le courage? C'était en question quand il s'est arrêté. Quand il y a eu ce grand événement dans cette salle, il a pris le courage de dire « je ne vais pas me laisser avoir et je vais avancer ».
Mais c'est trop trop beau ce que tu viens de dire, j'adore cette histoire. Mais en fait, c'est l'idée, c'est de toujours avoir dans la tête que quand on a un voyage à faire, eh bien oui, on fait des arrêts. Et quand on a un arrêt qui n'est pas forcément voulu, c'est souvent parce que, à l'image des Béni Israël dans le désert, c'est peut-être Dieu qui nous envoie sa nuée. Et qu'il arrête. Et les Béni Israël, c'était pas quelque chose qu'ils maîtrisaient. Quand la nuée s'arrêtait, ils devaient s'arrêter avec elle. Et nous, un petit peu, il faut se souvenir dans la vie que quand c'est arrêté contre notre volonté, c'est peut-être parce que la nuée s'arrête. Et là où on se trouve à ce moment-là, il y a peut-être une nuée cachée quelque part et c'est à nous de la dévoiler. Parce qu'on a sûrement une mission là où on se trouve. Et pour finir, on va finir avec cette petite histoire que j'apprécie particulièrement. C'était un grand, grand rave qui vivait en Europe la période d'avant-guerre, qui s'appelait Rabbi Mordechai Programansky. Et lui, il voyageait beaucoup dans l'Europe. Et un jour, lors de son voyage, pour rentrer chez lui, il cherche dans le train une personne qui va peut-être être de bonne compagnie pour lui pour passer ses longues heures de train. Il regarde un petit peu les wagons et il voit un homme qui a l'air d'être un juif érudit. Et donc il le salue et la personne en face de lui l'invite à s'asseoir près de lui. Et comme ça, ils font connaissance et il se présente, il lui dit « Voilà, moi je suis un moël, c'est le rabbin qui est responsable de la circoncision. Et donc voilà, j'ai mon matériel et je suis passé dans quelques villages pour circoncire des nouveaux-nés juifs. » Et il commence un petit peu à étudier, à parler d'études, de la Torah, etc. Et comme ça, le temps passe. Et ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont dépassé leur station depuis bien longtemps. Et donc, ils regardent l'heure. Et c'est déjà bien avancé dans l'après-midi. Sauf que c'était un vendredi. Et le vendredi, une fois que le soleil se couche, le Shabbat entre. On ne peut plus voyager. Ils se sont dit, mais maintenant, il faut qu'on trouve un endroit où passer Shabbat. Donc, ils descendent à la prochaine station. Et ils arrivent dans un village complètement perdu. Ils ne connaissent rien. Ils se disent, mais où on va passer Shabbat? Et donc, il y a là-bas un endroit où il y a des cochers avec leurs calèches et leurs chevaux. C'était un petit peu la station de taxi à l'époque. Aujourd'hui, ça pourrait être l'application de taxi. Et ils vont demander « Excusez-moi, est-ce que vous ne connaissez pas par hasard dans ce village une communauté juive, une synagogue, quelque chose ?» Les taxis, ils ne savent pas, mais il y en a un qui lui dit « Écoute, moi, je sais une certaine maison... où il y a un juif, parce que ça m'est arrivé de le conduire, monte avec moi, je t'amène. » Et comme ça, ils ont pris la course avec ce cocher. Et il l'amène devant la maison du juif, donc ils payent, tout va bien, ils descendent. Et là, ils voient une mezouza à la porte. Ça les a un petit peu rassurés, mais bon, ils sont quand même un petit peu angoissés de savoir comment est-ce qu'on va les accueillir. Ils frappent à la porte, et là, leur ouvre un homme, qui a l'air, encore une fois, d'un homme respectable, d'un juif, qui respecte la Torah. Il le regarde, leur dit bonjour. Comment allez-vous? Est-ce que, par hasard, l'un de vous deux serait Moël? Et donc le Moël, il lui dit, bien oui, je suis Moël. Justement, là, j'ai été en voyage pour circoncire des bébés. Et voilà, j'ai mon matériel avec moi, je suis Moël. Et là, l'homme écarquille les yeux comme si le ciel lui était tombé sur la tête. Il commence à pleurer. Et il s'effondre par terre, il se met à pleurer. Alors les deux hommes, ils sont là sur le pas de la porte, ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Ils essayent de le réconforter, lui dire qu'est-ce qui se passe. Et comme ça, dans ses sanglots, ils comprennent que cet homme avait eu un bébé 7 jours auparavant. Et ça fait 7 jours qu'il essaye de trouver un Moël, mais il n'arrive pas. Il envoie des télégrammes partout, mais il ne parvient pas à contacter de Moël. Et il ne peut pas prendre son nouveau-né et sa femme accouchée pour la transporter jusqu'à un autre village. Le voyage est trop pénible. Et le Shabbat allait rentrer. Et il s'est tourné vers le ciel en pleurant. Il a dit, mais Dieu, fais quelque chose pour moi. C'est pas possible que mon fils ne fasse pas la Brit Mila à 8 jours comme un petit garçon juif digne de ce nom. Et Dieu a écouté les prières. Et c'est comme ça que le Shabbat après-midi, à l'âge de 8 jours, cet enfant a été circoncis. Et il n'a pas seulement mérité un Moël, mais il a mérité aussi un Sandak. Sandak, c'est la personne qui porte le bébé pendant la circoncision, car le rabbi Mordechai Programensky était le Sandak. Donc avec 3 juifs, 4 avec le petit bébé, ils ont fait une magnifique Brit Mila. Et c'est comme ça que ces juifs-là se sont arrêtés dans leur arrêt, qu'ils n'avaient pas forcément choisi, ils n'avaient pas forcément voulu finalement avoir cet arrêt-là, mais c'est Dieu qui a décidé pour eux. Donc s'il y a 2 grandes leçons qu'on peut se souvenir aujourd'hui, c'est d'un, que quand on est dans un arrêt où on se sent, bloqué, il faut savoir que c'est de là qu'on tire les forces pour la suite du voyage, pour partir de plus belle. Et deuxièmement, c'est que quand on est arrêté, il y a peut-être une volonté divine qui nous a amenés là, parce qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas toutes sortes de choses bizarres qui se passent sur Terre. Ce n'est pas nous qui décidons. Nous, on a peut-être planifié un voyage, mais Dieu en a planifié un autre. Alors, on vous souhaite, bien sûr, de toujours ouvrir les yeux sur le voyage que Dieu a prévu pour vous et de toujours puiser dans les arrêts de ce voyage les forces pour repartir de plus belle. On vous souhaite Shabbat Shalom, à très bientôt et à la semaine prochaine pour une prochaine émission sur Radio Judaïka 90.2 avec Israël et Lior Gabay pour passer Shabbat chez les Gabayes.
יום ראשון מסתכל בשעון מתהפך במיטה ואיך לא בא לי איך אומרים החיים זה תמיד עבודה זה לא נראה לי בשני ושלישי טיפה עצבני זה שוב קורה לי רביעי כבר נגמר חמישי מאושר והנה מחר יום השישי